Loué et remercié soit le Seigneur. Si nous pouvions le croire, ce que nous avons chanté, alors nous verrions la gloire de Dieu. Et parce que c'est vrai, nous pouvons, nous ne le croyons pas seulement, mais nous savons que c'est ainsi. Le Dieu d'Israël ne trompe et ne ment pas. Il est lui-même la vérité en personne. Et ce qu'il a promis, il le fait certainement. Il a donné la promesse et il se tient sur ce qu'il a dit. S'il n'avait pas pensé ainsi, il ne l'aurait pas dit. Nous disons parfois des choses que nous ne pensons pas. Et parfois, nous les disons de la façon dont nous ne les pensons pas. Mais Dieu pense toujours ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Ça ne fait pas longtemps qu'une sœur qui était dans des problèmes, qui passait par des problèmes, a appelé et disait, « Oh, si le Seigneur Jésus était ici, j'irais à lui. » Et j'étais triste d'entendre cela. Dans mon cœur, je pensais à moi-même, « Mais qui sommes-nous pour douter qu'il est ici ?» Il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a dit, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, là je suis au milieu d'eux. » Qui sommes-nous pour douter à cela? Le Seigneur est ici. Et cela m'a pénétré comme un couteau dans le cœur. Je me disais, s'il pouvait ouvrir nos yeux spirituels et nous accorder plus de confiance et plus de foi, réellement nous verrions la gloire de Dieu. Nous sommes à chaque fois nouvellement reconnaissants à Dieu pour chaque heure et pour chaque occasion que nous avons d'écouter sa parole, de nous approfondir dans sa parole et d'apprendre à connaître mieux son dessein du salut, mais en relation avec cela, le désir grandit en nous d'avoir une communion intime et profonde avec Dieu pour qu'il puisse encore plus que maintenant recevoir ce qui lui revient de plein droit. Alors que je demandais au frère Dans Eisen comment est-ce que leur trajet a été jusqu'ici, il n'a même pas répondu à ma question. Et il disait seulement, nous sommes venus dans une grande attente. Et cela m'a aussi coupé le langage. Et je pensais qu'il allait répondre à ma question. Et il a parlé ni du temps, ni du trajet. Il a seulement dit spontanément, nous sommes venus dans une grande attente, bien alors avec une grande attente. Et je savais alors très exactement, je ne peux rien donner. Et alors j'ai répondu, le Seigneur ne va pas nous décevoir. Et je crois que c'est le mystère. C'était au moment où il le disait, c'est comme si je n'avais pas la réponse parce que je savais que je n'ai rien à donner. Mais exactement, je sais aussi que le Seigneur peut tout donner et a tout donné. Et personne, aucun qui vient à lui, repartira tel qu'il est venu. Celui qui vient aux hommes pourrait peut-être même repartir encore plus déçu qu'il a été auparavant. Mais celui qui vient au Seigneur ne peut pas être déçu. Aucun qui met sa confiance en lui pourra être confus. Personne, aucun. Nous saluons particulièrement nos frères et sœurs de la langue française parmi nous. Nous nous réjouissons de ce que dans l'amour de Dieu, nous pouvons être liés. L'amour de Dieu comble tout et couvre tout. Toutes les différentes nationalités, tout est devenu un en Christ. Si vraiment nous avons cru, Il y aurait beaucoup à exposer de ce que Dieu fait. Aujourd'hui, tard l'après-midi, j'ai eu un appel téléphonique de Paris. Après beaucoup, beaucoup d'années passées, il y a notre vieux frère Jaeglet, le frère Jaeglet, qui m'a appelé. J'étais tellement heureux. Vous vous rappelez tous de lui, nous l'avions baptisé ici. En plus, ils n'ont ensuite plus eu de nouvelles. Mais j'ai souvent pensé à lui. Et il disait, ou bien alors il demandait, « Comment vas-tu? Quand est-ce que tu viens à Paris ?» Alors je lui ai dit le 1er mai. Alors il m'a dit, « Alors je vais louer la salle. » Je suis convaincu que Dieu travaille dans le cœur des hommes. Ils vont arrêter de regarder à eux-mêmes, aux autres et aux circonstances et feront confiance au Seigneur et iront de l'avant dans la foi. Nous n'avons pas un autre choix. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Que le Seigneur pourrait encore nous aider en ce que nous recevions une compréhension, comment employer l'armure de Dieu, comment tenir ferme la possession du champ après avoir tout surmonté, comment mener à bien et diriger les choses de Dieu par sa grâce et par sa force. J'espère que les réunions aujourd'hui, ce week-end, ne sont pas enregistrées. Elles sont à caractère tout à fait local. Elles sont ici seulement pour nous, ici parmi nous. Il s'agit seulement que nous ayons communion les uns avec les autres. Je dois dire que je suis déjà béni. J'ai déjà été béni par la parole qui a été lue. Et vous avez remarqué, et là aussi, il est parlé de la venue du Seigneur. Mais ici, il ne s'agit pas de sa venue pour l'enlèvement. Avez-vous remarqué? Mais de sa venue quand il réglera les comptes avec les ennemis. Nous avons promis, j'ai promis, que nous allons parler des différentes venues du Seigneur et aussi écrire là-dessus. C'est tellement important d'ordonner tout dans le contexte juste. Par exemple, si nous lisons ici encore dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, ici il est écrit, voilà, dans la deuxième partie du verset 7, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, la deuxième partie du verset 7, ensuite le verset 8. Lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges de sa puissance dans un feu ardent pour exercer sa vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu ou bien reconnaissent pas Dieu et sur ceux qui n'écoutent pas le message de salut de notre Seigneur Jésus. Ceux qui n'écoutent pas le message de salut de notre Seigneur Jésus. Quand le Seigneur vient pour l'enlèvement, il ne vient pas pour exercer la vengeance et la rétribution. Alors là, il vient comme époux pour prendre sa bien-aimée épouse à la maison. Et son épouse le rencontre à mi-chemin. C'est-à-dire que nous serons enlevés à sa rencontre et lui descendra à notre rencontre et nous le rencontrerons dans les airs et nous serons pris auprès de lui, à lui, pour être auprès de lui pour toujours. Mais quand la vengeance, le règlement du compte arrive, verra pour ceux qui n'ont pas cru, alors là, il viendra avec colère, avec un feu ardent, car le jour de l'Éternel brûlera comme un four. Et en ce jour-là, les païens, les méchants, brûleront comme de la paille et du chaume. Ainsi sera pour eux le jour de l'Éternel. Donc on peut bien distinguer cela. Il y a encore une autre venue du Seigneur quand il mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers qui se fendra. Et il y a une autre venue du Seigneur quand dans Apocalypse 14, il sera montré avec les 144 000 sur la montagne de Sion. Il y a encore une autre venue dans Apocalypse 10 en tant que l'ange de l'Alliance. Quand il descend en tant que l'ange de l'Alliance et met un pied sur la terre et l'autre sur la mer et jure auprès de celui qui vit éternellement et que désormais le temps ne sera plus. Tous ces différents contextes et malgré tout, Dieu voulant, elles sont appelées la venue du Seigneur et nous allons les classer dans l'ordre biblique. Mais tout en fait est classé dans l'ordre biblique par Dieu lui-même d'une manière merveilleuse. On doit seulement se laisser insérer dans l'ordre divin pour pouvoir reconnaître et trouver l'ordre divin qui est fixé dans la parole de Dieu. En fait, ça, c'est tout le mystère. Je me suis proposé pendant ce week-end de lire d'une prédication de Frère Branham, mais aussi des Saintes Écritures. Vous savez que les prédications partout sont écoutées et sont lues peuvent être lues à la maison. Quand nous venons ici nous rassembler, alors nous nous référons à plusieurs sujets ou bien plusieurs prédications et pour encore une fois souligner, relever ce qui a été relevé par révélation et insister et mettre l'importance sur les choses sur lesquelles l'importance a été mise et annoncer ce qui a été annoncé. Et je crois que nous ne pouvons pas seulement avec une bonne conscience, mais nous pouvons dire avec la meilleure conscience et dire que nous n'avons rien ajouté à la parole révélée et nous n'avons non plus rien retranché. À la parole révélée, nous la croyons de tout notre cœur. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu a envoyé un esclave serviteur et prophète pour nous apporter le dernier message. Mais jusqu'à la fin, que Dieu puisse nous laisser distinguer et laisser savoir que toute l'adoration, toute la louange, toute la gloire lui appartient à lui et doit être adressée à lui et à lui seul, le Dieu Tout-Puissant, et à aucun homme. Pas à aucun homme, non plus à un prophète, pas à un ange, même pas à un ange, pas à un seul, seulement à Dieu et à Dieu seul. Et c'est en cela que nous nous distinguons de beaucoup de frères qui sont connus dans l'Europe de l'Est, particulièrement avec la Pologne, avec la situation là-bas, ils se rappellent, alors que la visite des États-Unis était allée là-bas avec la révélation des sept tonnerres comme ils le prétendent. Et ils sont venus avec deux costumes de frère Branham qui ont été découpés et chacun a pu repartir avec un morceau des costumes. Et les gens se sont jetés là-dessus pour pouvoir avoir un morceau. Nous n'avons pas besoin d'un costume, nous n'avons pas besoin de culte, d'idolâtrie. Ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous accorde la clarté, la lumière divine et le respect sur ce que Dieu a fait. Nous estimons ce que Dieu a fait et nous respectons ses décisions aussi. Ses décisions étaient que dans notre génération, il appelle un homme qu'aucun homme aurait appelé. Personne serait venu à l'idée d'appeler ce Willy Billy. Mais Dieu l'a appelé. Je ne sais pas qui c'était. C'était mon gendre, mon beau-fils et ma sœur aînée. Ma fille aînée. Je crois que avant-hier soir, nous avions parlé dans le bureau ensemble. Ma fille aînée et mon gendre. Ils avons regardé le livre avec plusieurs photos, je crois, de l'histoire de sa vie. Donc, une géographie de Frère Branham. Mais je dois dire que quand j'ai vu cette cabane en bois à moitié effondrée dans laquelle cet homme est venu au monde. J'ai commencé à pleurer. C'est rentré profondément dans mon cœur. Et j'ai regardé cette cabane en bois à moitié effondré. Et je peux me rappeler, alors que frère Branham disait oui, alors que nous étions jeunes et que nous dormions tout en haut, quand il a neigé, le vent a fait rentrer la neige dans la cabane, quand il pleuvait, nous avions de l'eau dans la cabane. Et pendant l'hiver, notre mère nous a donné de l'huile de foie de morue pour que nous puissions surmonter les rhumes à nouveau. Je pensais, oh, ce qui n'est rien devant le monde, c'est ce que Dieu a choisi pour, n'est-ce pas, confondre toute la sagesse de ce monde. Hein? Dieu ne pouvait pas trouver quelqu'un de plus pauvre que lui. Je ne sais pas dans quelle prédication, je crois que c'est... celle la plus courte, ou bien alors, ou bien qui sera éditée après la prochaine, dans laquelle frère Branham raconte son enfance et son temps à l'école et tout ça. Et il disait qu'il n'avait même pas une chemise ou bien un sous-vêtement qu'il aurait pu mettre. Il avait qu'une jaquette et il devait la fermer avec une épingle de sûreté. C'est comme ça qu'il allait à l'école. Même pas de fermeture éclair. Et vous pouvez vous imaginer, vous ne pouvez pas. Il a été la moquerie de tous les autres. Et la maîtresse lui disait, William, viens et fais chauffer la cheminée, et, n'est-ce pas? Et elle a, n'est-ce pas? Et s'est encore moqué de lui. Et il disait, cela a fait monter en moi quelque chose contre les femmes, parce que c'était justement une maîtresse. Et lui aussi, il n'était qu'un homme. Mais Dieu a conduit les choses ainsi, que par tant de souffrances et de douleurs et de problèmes, il a dû passer. Et plus tard, il pouvait ressentir les douleurs des autres. Il pouvait plus tard mépriser personne. Bien au contraire, il avait cette compassion divine. Et là, je me rappelle d'un cas d'une situation, alors que quelqu'un vint à lui, vous l'avez aussi lu, et cet homme lui disait, si tu as la même puissance que Paul, tel que Paul l'avait, alors frappe point d'aveuglement. Et je suis convaincu que Dieu lui aurait permis de le faire. Il aurait seulement eu besoin de prononcer une parole et que cela se serait accompli. Mais cet homme a dit avec humilité, comment est-ce que je pourrais te frapper d'aveuglement? Tu es déjà frappé d'aveuglement. Et il a eu dans son cœur pour cette personne une compassion si profonde. Et je me demande, nous, qu'est-ce que nous aurions fait si nous avions la puissance de Dieu? Nous aurions, n'est-ce pas, saisi le défi à la cravate et nous serions partis, n'est-ce pas? Mais ici, il y avait l'amour de Dieu qui est au-dessus de tout ce qui est propre, nous élève au-dessus de tout ce qui est propre. Et c'est ce qui est majestueux. Pas de vouloir avoir raison, pas vouloir savoir mieux les choses que les autres, pas regarder avec mépris les autres, mais quelqu'un qui se soumet lui-même à Dieu pour servir son prochain, pour servir l'homme avec le don que Dieu lui a donné. Nous aussi, nous n'avons pas un autre souhait, mais seulement que de faire les choses pour lesquelles Dieu nous a déterminés avec un appel saint de la bouche de l'Éternel lui-même. Ne peut que sortir un appel saint, un mandat saint, prononcé de sa propre bouche. Et avec tous avons été appelés de cette sainte vocation pour croire le Seigneur, pour le suivre et pour le servir et pour se tenir à sa disposition. Je pense encore à un autre cas auquel sûrement vous pourriez aussi bien vous rappeler. Alors qu'un jeune couple était entré dans la réunion et l'un a pris l'autre pendant la réunion sur ses genoux et l'Esprit de Dieu a parlé et a dit, quoi que tu dises, cela va leur arriver. Car toute chose à sa place, mais pas dans la maison de Dieu, de venir faire cela ici, et surtout pas dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham a prié pour le salut de leur âme. Vous connaissez toute cette histoire. Et c'est ce qui est exceptionnel dans cet homme de Dieu. Pas l'enseignement seulement, pas la révélation prophétique seulement, pas le service puissant Il était aussi comme un homme avec un cœur qui ressent comme Dieu ressent, un cœur que Dieu lui a donné. Que nous puissions avoir un peu plus du Seigneur, un peu plus de sa nature, plus de ressentir comme il ressent. Je vous dis, j'étais dans les temps passés pas rarement parmi des hommes qui pensent différemment et croient différemment et marchent dans d'autres voies. Et là aussi, j'ai dû apprendre à me mettre dans à leur place. Et je dois dire que c'est pas une critique, c'est pas un jugement. Bien au contraire, encore plus de reconnaissance est montée dans mon cœur. Particulièrement, il y avait un évêque qui me disait encore dans cette ville, j'étais assis dans une réunion de frère Branham sur l'estrade et j'avais préparé la réunion et j'avais vu ce que Dieu avait fait. Donc c'est cet évêque qui me le dit. Et quand ensuite on entend que quelqu'un qui a pendant beaucoup d'années regardait ce que Dieu avait fait, s'asseyait sur l'estrade et préparait des réunions pour frère Branham, et maintenant aujourd'hui il marche dans ses propres voies avec des titres et des noms sans marcher sur le chemin de Dieu, sur les voies de Dieu. C'est une douleur. Alors que je lui parlais, je voulais lui dire quelque chose de frère Branham. Alors il m'a dit, écoute, laisse-moi d'abord parler. Et alors lui, réellement, il a eu beaucoup à dire. Même qu'il n'y avait pas eu un homme comme cet homme de Dieu qu'il l'aurait rencontré une fois sur terre. Pas un homme comme lui. Mais quand on vient à parler du message, alors bien sûr, c'est une autre chose. Hein. Pour eux, il s'agit seulement de l'homme. Non. Remercions le Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce devant lui dans ces jours. Et aussi, nous allons encore parler de cela. Car la réponse juste ne peut que venir de Dieu. Et c'est seulement Dieu qui peut la donner. Nous, en tant qu'hommes, même si nous nous tenons très proches du Seigneur, nous sommes toujours capables de donner une mauvaise réponse. Aujourd'hui, d'abord, je vais vous lire de Marie et ensuite d'une autre dame dans les Saintes Écritures. La première, dans Luc chapitre 2. Un moment, Luc, chapitre 2, oui, comme première chose. Ici, nous lisons à partir du verset 41. Luc, chapitre 2, à partir du verset 41. Vous pouvez lire, moi je lis à partir du verset 44. Pensant qu'il était parmi les voyageurs, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et les connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé là, ils retournèrent à Jérusalem et l'y cherchèrent. Restons d'abord ici un moment. Marie et Joseph ont quitté Jérusalem et retournèrent à la maison. Et n'ont pas constaté que le Sauveur, qui autrefois avait 12 ans selon le calcul humain, que le Sauveur n'était pas parmi eux. Et ils l'ont cherché parmi les parents et les voyageurs, et là, il n'était pas là. Je suis de ceux qui rarement peuvent attendre pour dire ce qui doit être dit à la fin. D'habitude, je le dis toujours dès le commencement, dès le début. Il y a des hommes qui ont un talent particulier de garder la dernière chose jusqu'à la fin. Cela ne m'est pas donné, tout simplement. Ils ont continué à chercher donc, et ici il est dit, mais ne l'ayant pas trouvé là, au verset 45, ils retournèrent à Jérusalem et l'y cherchèrent. Enfin, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent assis dans le temple, au milieu des enseignants, les écoutant et leur posant aussi des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de sa compréhension et de ses réponses. Quand ils le virent là, ils furent troublés. Et sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Pense-y que ton père et moi te cherchons avec angoisse. » Qu'est-ce que Marie a dit ici ? Qu'est-ce qu'elle a dit ici ? Ton père et moi te cherchons avec angoisse. Mais qui était Joseph ? Joseph n'était pas le père. N'était pas son père. Et ici, elle dit, ton père et moi te cherchons avec angoisse. Cela lui a pénétré le cœur comme un couteau. Il a corrigé tout de suite. Il n'a pas attendu. Il a corrigé tout de suite. Et nous lisons maintenant le verset 49. Alors il leur dit, le verset 49, « Comment avez-vous pu me chercher ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Ici, il ne voulait pas parler de Joseph. Hein? Ici, il parlait de la maison de Dieu. Est-ce que vous remarquez la correction ? Tout de suite, la correction. Marie a parlé humainement. Le Seigneur, lui, a parlé divinement. Il a corrigé à l'endroit où l'erreur a été faite. Il n'a pas attendu. Et il a dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Pas dans l'atelier du charpentier à Nazareth, mais dans le temple à Jérusalem. Il a corrigé à l'endroit même où l'erreur fut faite. Pour nous, presque pas compréhensible de ce que Marie ait pu prononcer cela. Mais malgré tout, cela nous montre que tous qui ont marché sur cette terre n'étaient que des hommes. Il n'y a eu qu'un homme, Dieu, et c'était Jésus-Christ, notre Seigneur. De sa bouche, jamais une erreur est sortie. Seulement la pure vérité et rien d'autre. Et les hommes ont toujours pu se tromper. Pensez au prophète Nathan, je crois que c'était, qui disait à David, « Fais tout ce qui est dans ton cœur et le Seigneur sera avec toi. » Et au prochain jour, il devait repartir et se corriger. Il devait rectifier ce qu'il a dit. Parce que en temps, la parole de l'Éternel, la correction était sortie. Va et dis à mon serviteur David que il avait ce souhait dans son cœur de me bâtir une maison. Que cela soit gardé en mémoire. Mais ce n'est pas lui qui le fera, c'est son fils. C'est son fils. Le prophète avait des bonnes intentions. Il a dit à David, fais tout ce qui est sur ton cœur. Le Seigneur sera avec toi. Mais là, il ne prophétisait pas. Là, il a fait qu'écouter ce que David disait. Et il était d'accord. Aussi comme prophète, mais il n'a pas parlé prophétiquement. Il a, comme prophète, parlé humainement. Fais tout ce qui est sur ton cœur. Mais après, que la parole du Seigneur lui a été adressée, il est revenu et il n'a plus dit, dis tout ce qui est sur ton cœur. Mais maintenant a apparu ce qui était sur le cœur de Dieu. Et maintenant, il ne s'agissait plus de la volonté de David, mais de la volonté de Dieu. Et a suivi le ainsi dit le Seigneur. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu a fait grâce à ceux qui étaient proches de lui. Même s'il disait quelque chose qui était une erreur, il leur accorde sa grâce et les corrigeait. Et qu'ils ont toujours accepté la correction. Et ensuite, on se sont dirigés d'après ce que le Seigneur leur avait dit comme correction. Et ça, c'est la grâce. Aussi, de tels hommes, chacun de nous, ça peut nous arriver que nous faisions ou bien disons quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Ce n'est pas la chose la plus grave. Que Dieu puisse nous garder de cela. Mais si cela nous arrive, alors ce serait humain. Mais quand ensuite, si nous sommes des gens qui peuvent apprendre, qui acceptent la correction et qui se corrigent et qui permettent à Dieu de nous parler, ça c'est la grâce de se corriger, de rectifier, réparer l'erreur. Et alors on est corrigé et on est aidé. Alors, Il cherchait le Seigneur alors qu'il avait 12 ans chez les parents, chez les voyageurs à Jérusalem. Mais il était là où ils l'ont laissé, en fait, c'est-à-dire dans le temple. Et c'est seulement là que nous trouvons le Seigneur, seulement là. Il est là à trouver là où il se, là où il s'est révélé. Et nous allons aujourd'hui lire plusieurs choses de la prédication de frère Branham. Le lieu d'adoration préparé par Dieu. Mais laissez-moi lire encore une deuxième écriture dans Luc, chapitre 11 maintenant. Il y avait une femme dans la foule qui subitement a exprimé comme ça une béatitude, une bénédiction qui ne pouvait pas être laissée sans être corrigée. Dans Luc chapitre 11, verset 27 et verset 28, comme il parlait, une femme de la foule éleva la voix et lui cria. Luc 11, verset 27. Béni soit le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont nourri. Est-ce que remarquez le prochain verset? Qu'est-ce que c'est que le sein? Qu'est-ce que c'est que les mamelles? Qu'est-ce qui doit être là béni? Ou bien alors béatifié ou bien élevé? Lisons le verset 28. Mais il répondit, béni plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Tout de suite, il a apporté la correction. Pas ici, terrestrement, ici, le vase, mais divinement. Et ce qui compte, c'est-à-dire la parole. Et Jésus était la parole devenue chair. Béni plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Alléluia. Pas des seins ou bien des mamelles ou bien quoi que ce soit. Mais ce qui compte, la chose divine, et c'est ça qui s'agit pour nous aujourd'hui, et ce qui compte pour nous aujourd'hui, et ce qui est important pour nous aujourd'hui. Je suis tant reconnaissant au Seigneur, et j'espère et je fais confiance et je crois que jusqu'à la fin, il nous gardera pour que nous puissions avoir, que nous puissions distinguer un culte rendu à Dieu et l'idolâtrie, que nous puissions à lui, le Dieu éternel, tout-puissant, lui apporter toute la gloire, l'honneur et l'adoration, et à personne d'autre. Et je voudrais, avant que nous lisions plusieurs citations, lire ici la prière que frère Branham fait monter au trône de la grâce de Dieu. Il dit ici, bien-aimé Père Céleste, nous estimons cela comme vraiment un grand privilège aujourd'hui d'être à Los Angeles parmi ces croyants, parmi les élus, parmi les enfants de Dieu qui ont été appelés du monde, à sortir du monde et ont été séparés, mis à part. Ceci est une heure puissante dans laquelle nous vivons, car nous attendons à tout moment l'apparition de notre bien-aimé Seigneur Jésus. Nous te remercions dans nos cœurs pour la foi qu'il a dans notre, que dans, pour la foi que, dans notre, que c'est dans notre génération qu'il viendra. Et nous fixons le regard sur lui. Et s'il ne vient pas aujourd'hui et que nous sommes encore demain ici, alors demain, nous l'attendrons. Ce n'était pas seulement des paroles, je vais tout de suite continuer à lire. C'était une partie intégrante de son existence. C'était une expérience vivante. C'était une attente en lui au retour du Seigneur. Combien d'années plus tard, c'est maintenant, et nous nous demandons réellement dans quel état nous sommes. Est-ce que nous sommes dans le même état d'attente? Et alors que j'avais l'occasion de chanter et que j'ai encore chanté, cela ne m'arrive pas tous les jours, ça je l'avoue, mais là j'avais pu chanter et Alors je me suis demandé combien de mes frères et de mes sœurs peuvent aussi à la maison prier, à la maison chanter, à la maison louer et remercier le Seigneur, ou bien alors combien le font seulement dans la réunion. Que Dieu puisse faire de nous des hommes, des personnes qui portent sa louange en eux, qui portent la reconnaissance en eux, qui vont se coucher avec cette louange et se lèvent avec cette louange, nuit et jour, sur la parole du Seigneur, méditer. Et j'ose même dire, si nous nous souvenons du bien que Dieu, si nous élevons le bien que Dieu nous a fait, alors la joie survient, la reconnaissance. Mais quand nous voyons le négatif, ou bien alors ce que les hommes peut-être font, bien voudraient nous faire, alors nous sommes attristés, n'est-ce pas? Non. Mais un jour, l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que les hommes peuvent me faire pour ton salut et pour mon salut? Seulement le Seigneur est responsable et, et nous croyons qu'il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, tel que c'est écrit dans Tite. Continuons à lire. Dieu fidèle, nous te prions que ces réunions deviennent des réunions particulières, que ce soit un temps où un tel progrès est enregistré dans l'Église et que ce progrès soit aussi toujours écrit dans tes livres dans l'éternité. Bénis aussi les faibles efforts que nous entreprenons ici. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes des ratés complets. C'est peut-être la raison que nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que nous puissions continuer. Nous ne voulons pas ces choses pour notre propre honneur et gloire. Non, nous le voulons pour ton honneur et pour ta gloire, sincèrement, car c'est le désir de nos cœurs de voir Jésus glorifié dans son peuple, pour que la foi en lui aujourd'hui, où la bataille est rude, que la foi en lui soit fortifiée. Nous sommes venus pour être nouvellement rafraîchis, vivifiés. Nous te le demandons, que tu puisses nous accorder toutes ces choses, car nous te le demandons au nom de Jésus. Est-ce que nos prières aussi sont pas dans ces, dans, ne vont pas dans le même sens? Est-ce que c'est pas notre prière? Seigneur, glorifie ton nom, confirme ta parole, rafraîchis-nous, vivifie-nous. Que les ossements desséchés s'approchent les uns des autres et que tu puisses les joindre pour que quelque chose puisse se passer. Particulièrement, que ton nom parmi ton peuple soit glorifié. Ça, c'est notre désir à tous. Il s'agit du lieu d'adoration. Avant de lire la parole que Frère Branham a lu ou bien alors inversée, de ces écritures, j'aimerais aller dans Jean chapitre 4, ce verset connu, à partir du verset 19. Jean chapitre 4, verset 19, ici le Seigneur dit à cette femme, à la Samaritaine, Jean chapitre 4, à partir du verset 19, la femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur la montagne là-bas. Et vous prétendez que c'est à Jérusalem que se trouve le lieu où l'on doit adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Maintenant, le verset 23. Mais l'heure vient, et c'est déjà le cas, où les vrais adorateurs adorerons le Père en esprit et en vérité. Car le Père aussi veut que tels soient ses adorateurs. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Peut-être jusqu'ici, cette parole, pas seulement peuvent, mais doivent l'adorer. Il n'y a pas une autre adoration. Une autre adoration ne va même pas monter au trône de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ce soit une adoration en esprit. Une prière produite par l'esprit. Pas le lieu, pas l'endroit, mais ce que l'esprit, sous l'écoute de la parole de Dieu, qui est esprit et vie, ce que l'esprit peut produire en nous. Et cela monte comme reconnaissance au trône de Dieu. C'est ça qui monte comme reconnaissance. Et la même chose, le Seigneur aussi nous dira cela aujourd'hui. Crois ma femme, crois ma homme. Nous pouvons dire aujourd'hui, au verset 21, si cela est adressé à nous aujourd'hui, il dirait, croyez-moi, vous femmes et hommes, croyez-moi, l'heure vient où vous n'adorerez plus à Jérusalem avec les lèvres, et le cœur est éloigné de Dieu, mais là où, en esprit et dans la vérité, on prie, on adore. Croyez-vous cela aussi? Jésus était là, il disait autrefois, crois-moi, femme, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Jérusalem, l'heure est venue. Dieu a des vrais adorateurs. Ils ne vont pas sur une montagne sainte ou bien dans une ville sainte. Ils viennent devant la face du Saint Dieu, du Dieu Saint, dans la crainte de tout leur cœur. Ils reconnaissent leur faiblesse, ils se prosternent devant Dieu, ils se placent sous la grâce, sous le sang. Même si auparavant ils ont frappé leur face sur la terre, alors Dieu les relève, sur le sol, Dieu les relève. Et alors, nous chantons, j'élève les yeux vers le ciel, où on te loue, dans la chorale céleste. Il y a des moments dans la présence de Dieu où l'esprit et l'âme s'échappent des choses terrestres, ce qui afflige, ce qui charge, ce qui veut retenir, et nous nous élevons dans l'esprit pour adorer Dieu. Et dans ce cantique au dernier couplet, il parle de la position élevée sur laquelle, comme croyants, nous avons été placés. Pensez, s'il vous plaît, à cette parole quand nous allons encore lire plusieurs passages des Écritures, particulièrement cette Écriture que Frère Branham a lue comme base de cette prédication dans Deutéronome, le chapitre 16. Il a lu tout un grand nombre de versets. Je vais seulement lire le deuxième verset. Deutéronome, chapitre 16, verset 2. Deutéronome 16, verset 2. Tu égorgeras ensuite du petit bétail et des bœufs pour le sacrifice de la Pâque de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Ici, nous avons un grand mystère. Pas où nous voulons, pas comme nous le voulons, mais là où Dieu le veut et comme Dieu le veut. Les propres réunions existent dans le monde entier, des propres programmes, des cultes en grand nombre. Mais Dieu cherche des hommes à qui il peut parler, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui ont du respect devant ses décisions et devant ce qu'il fait. Devant ce qu'il fait. Et reconnaissent ce qu'il fait. Reconnaissent pas ce qu'il, pas reconnaissent ce qu'ils veulent faire eux-mêmes, mais ce qu'il fait, lui, Dieu. Ici, c'est un ordre qui a été donné. Les sacrifices devaient être apportés dans le lieu que l'Éternel choisirait. Et c'est-à-dire le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider aussi son nom. Il demeure le même. Il reste le même dans toute éternité. Il choisit le lieu, le temps. Il conduit et dirige tout. Et nous savons où cela mène, où cela nous conduit. Cela nous conduit à Christ notre Seigneur, dans lequel Dieu s'est révélé lui-même et qui a porté son nom. Il n'y en a pas eu un autre sur terre qui a porté ce nom. Et je voudrais, de cette prédication nommée, lire à la page 5, en haut, le premier paragraphe. Les chrétiens doivent vivre selon cette loi. Cela ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce qu'il a fait pour nous. Christ, déjà comme sacrifice, a été immolé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il sera immolé, il l'a déjà été. C'est une œuvre accomplie. Il vivait, mourut, il est ressuscité, il est monté au ciel et en forme du Saint-Esprit, il est revenu. Pour Dieu, c'est donc une œuvre accomplie. Christ, qui ne connaissait aucun péché, qui était sans péché, est devenu péché pour moi, pour que je puisse ensuite prendre sa place. Il a dû prendre ma place. J'étais en lui avant même qu'il mourût à Golgotha. C'est là-bas que je devais mourir avec lui pour pouvoir vivre. Parce que la loi du péché et de la mort est dans le corps. Vous devez mourir pour être réconcilié avec lui. Quelle pensée merveilleuse. Ici, l'une des lois est placée devant l'autre, la loi de la mort, en face de la loi de la vie. Christ a pris notre place. Il avait été déterminé de Dieu pour cela. Ça, nous l'avons lu dans le proverbe Ésaïe 42. Mon bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir, que j'ai choisi. Il s'agit de l'élection. Il s'agit du choix. Il s'agit de la détermination, de la prédestination et des intentions de Dieu, du dessein de Dieu. Christ, avant même la fondation du monde, avait été déterminé à naître, à souffrir et à mourir et à être enseveli et à aller dans les endroits inférieurs de la terre pour pouvoir ressusciter et monter au ciel. Avant même la fondation du monde, cela, il avait été prédestiné, déterminé comme sauveur et rédempteur, car Dieu savait que quelque chose se perdrait parce que l'homme s'est perdu dans le corps de chair et ainsi sous le péché et le domaine de la puissance de Satan a été livré. C'est pour cette raison que lui qui est esprit, il devait se former un corps, se préparer un corps pour ici dans son corps de chair mourir à notre place et payer le prix du péché une fois pour toutes, l'expier et accorder le pardon. Ici, nous l'avons lu. Le Seigneur a tout fait pour nous. Il était le choisi, l'élu, le déterminé, comme Paul et Pierre et tous les apôtres l'ont annoncé, prédestiné, la prédestination de A à Z. Dieu savait ce qui allait arriver et ce qui n'allait pas arriver. C'est comme ça qu'il a pu à l'avance déterminer toutes choses. Je continue à lire à la page 6, le petit passage au milieu, et ensuite 6 lignes d'en bas. Pensez à cela. Il a un lieu qu'il a préparé, seulement un seul lieu où il rencontre ses enfants croyants. Sinon, nulle part ailleurs, cette rencontre peut avoir lieu. Seulement un lieu, seulement un endroit, pas ici et là, mais un seul point de rencontre. Dieu a un point d'origine à sur terre. Une maison de révélation. Combien de fois nous l'avons dit? Une tente d'assignation. Nous pouvons seulement rencontrer Dieu où il nous a rencontrés. Il n'y a qu'un seul dans lequel Dieu a rencontré l'humanité, a parlé. Dieu a parlé par beaucoup de choses, par beaucoup d'hommes, par tous les prophètes particulièrement, mais rencontré personnellement l'humanité. Cela a eu lieu seulement en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est seulement en lui que nous pouvons personnellement rencontrer Dieu. C'est là que nous avons l'endroit, c'est là que nous avons le lieu. Et si nous voulons venir à Dieu, alors nous venons à Dieu par Golgotha. À Golgotha, le lieu est inauguré, le rideau est déchiré. Le frère Rousse, en ce qui concerne les cantiques, il a insisté. Il traitait la lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Oh, quelle reconnaissance devrait monter en nous. Notre Seigneur l'a dit, celui qui me suit ne marche, ne demeurera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Alors si nous le suivons, si vraiment nous le suivons, si nous sommes des disciples, alors nous devons passer de clarté en clarté et de vérité en vérité. Ça, c'est le chemin de Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous fait aller de l'avant sur ce chemin, vraiment de lumière en lumière et de clarté en clarté. Pensez à cela. Il a un lieu préparé, seulement un lieu où il rencontre ses enfants croyants. En général, nous manquons de confiance, de foi dans l'œuvre parfaitement, totalement accomplie de la rédemption à Golgotha. Si nous pouvions avoir ça constamment devant nous, sous nos yeux et dans nos cœurs portés, cette œuvre que Dieu en Christ nous a réconcilié avec lui-même, et que cela est une vérité que rien ne peut renverser et qui demeure éternellement. Oh, rien ne peut bouger là. Ça, c'est une réalité divine. Rien ne peut changer. À ça, nous le croyons. Nous croyons à cette œuvre. Nous croyons. Dieu ne peut pas mentir. Je continue à lire. Malgré tout, Jésus disait qu'était Dieu en forme humaine et qui habitait parmi nous. Il a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Il ne disait pas qu'il ne le servait pas, mais c'est en vain qu'il adorait, mais en vain. Il adorait, mais en vain. Ça, c'est une parole très importante. Pas seulement l'adoration, pas seulement la louange, pas seulement chanter, mais de chanter en esprit, de louer en esprit. D'annoncer la parole de Dieu dans l'esprit, d'écouter la parole de Dieu dans l'esprit, d'être un avec Dieu, dans l'esprit de Dieu, de pénétrer dans l'esprit de Dieu, d'être élevé dans l'esprit de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, sur une position élevée, être apporté en accord avec Dieu, alors tout est toujours vrai. Alors même si parfois avec des yeux humains, nous ne pouvons pas toujours comprendre les choses. Ils adoraient, mais en vain. Ils adoraient Dieu. Ils chantaient des cantiques. Les mêmes psaumes que nous chantons aujourd'hui, que nous lisons aujourd'hui, ils les ont chantés. Que nous lisons aujourd'hui. C'était tous des choses qu'ils adressaient à Dieu, mais Dieu n'en a fait aucun cas. Pourquoi? Parce qu'ils, dans leur époque, ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation divine. Ils n'ont pas, dans l'histoire du salut, pris part à ce que Dieu faisait. Ils sont restés à Moïse, aux prophètes, et ils n'ont pas reconnu dans leur époque que l'heure était arrivée, dans laquelle ce dont Moïse et tous les prophètes avaient parlé, avaient écrit, était en train de s'accomplir sous les yeux, et s'accomplissait sous leurs yeux. Les prophètes avaient parlé en esprit, et cela a été écrit en esprit. Jean a aussi en esprit préparé le chemin. Maintenant, ils auraient dû suivre ce chemin. Mais ils étaient tellement liés à leur tradition que ce que Dieu a fait, ils ne le voyaient pas. Est-ce que nous ne vivons pas dans une situation semblable maintenant? Tout est lié avec des traditions de toutes sortes religieuses. Les chorales merveilleuses. Alors, on peut tous se cacher. Hein? Les hommes peuvent chanter et jouer tout ce qui se passe parmi eux. Dans toutes ces camps, jusqu'à dans tous les différents tons, les voix et tout ça. Et rien n'entend. Dieu ne prête aucun cas à ça. Et n'écoute pas. Dieu a un programme. Dieu a un plan. Et c'est en Jésus-Christ qui s'est révélé. Et je vous le dis déjà maintenant. Justement, dans 1 Jean, au chapitre 5, au verset 20, là, il est parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de sa divinité. Elle est relevée et soulignée au verset 21. C'est qu'une petite phrase. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ou bien oui, devant les dieux. Les idoles. Dieu au petit dé. Je vais vous dire, nous allons encore venir à en parler. Et ça, c'est le verset biblique important sur lequel demain nous allons sûrement encore venir à parler que personne, chacun ne peut pas, n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Mais Dieu a un plan. Dieu a un programme. Dieu sait ce qu'il veut. Mais nous voulons, nous devons aussi vouloir ce que Dieu veut. Et nous devons d'abord reconnaître sa volonté et ensuite la vouloir. Pas seulement adorer, mais adorer Dieu en accord avec la parole de Dieu. Adorer Dieu dans l'esprit de Dieu. Ils adoraient en vain. Je vais vous continuer à lire. Citation. Tout ce qui est en vain est sans utilité, ne sert à rien, ça n'a aucune valeur. Vous ne devriez jamais le faire parce que c'est perdre son temps. Vous perdez votre temps, vous perdez votre souffle. C'est des efforts en vain. Jusqu'à ce que nous reconnaissons ce que nous devrions faire. Ce que nous devons faire. Combien s'efforce. Et retiennent leur souffle. Je ne le dis pas comme ça légèrement. J'ai appris aussi à connaître les différentes religions. J'ai vu les masses, les foules, les musulmans sur leur face. J'ai vu comment est-ce qu'ils prient dans un rythme et élèvent leur voix à Dieu et souffrent, et soupirent et gémissent. Et malgré tout, Dieu n'écoute pas. Parce que eux, de leur tour, ils ne prêtent pas l'oreille à la parole de Dieu. Seulement si nous avons écouté Dieu et sa parole, alors il nous écoutera quand on prie. Seulement quand Dieu nous parle et que nous acceptons, c'est seulement à ce moment-là que aussi nous pouvons parler avec Dieu et qu'il nous écoutera. C'est la règle. Abraham n'aurait jamais pu parler avec Dieu si Dieu n'avait pas d'abord parlé avec lui. Moïse n'aurait pas pu parler avec Dieu si Dieu n'avait pas d'abord parlé avec lui. Vous pouvez passer de prophète à prophète, que ce soit dans l'Ancien ou bien le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui. Remercions le Seigneur lors de cette occasion de ce qu'il nous a parlé. Il a parlé avec nous de manière diverse. Quand je pense à la parole du Seigneur, par sa parole, par son esprit, alors nous n'avons qu'une seule chose à faire. Autant que tous les prophètes et les apôtres ensemble remercient, nous devrions aussi remercier parce que Dieu nous a accordé tout. Tout ce qu'il leur a révélé dans les différentes époques et les différents temps. Aujourd'hui, nous avons toute la Bible. Et je vais encore à la 6e page en bas. Si Dieu attend des hommes qui soient parfaits, comme Jésus disait, alors vous devez être parfait comme votre Père est parfait. Donc, si Dieu nous le demande, alors il faut certainement qu'il y ait quelque part une préparation. Il a dit, je vais choisir le lieu où les hommes m'adoreront, devront m'adorer. Pas dans un autre lieu, je les rencontrerai. Pas dans un autre. Il faut alors que ce soit ce lieu et nous devons le trouver, savoir où il est et alors y aller. Je veux dire par là que nous devrions rapidement nous y aller. Dès que nous l'avons trouvé et tout le reste, l'abandonner. Oui, nous ne l'aurions jamais trouvé. Il nous a trouvés. C'est lui qui nous a accueillis et nous l'avons reconnu. Reconnu qui il est. Maintenant, nous pouvons adorer. Auparavant, avant cela, ce n'est même pas possible. Je pense maintenant à l'adoration dont notre Seigneur a parlé. Quand il disait, « Femme, crois-moi, le temps arrive, l'heure vient où vous n'adorerez ni dans, sur la montagne ni à Jérusalem, mais en esprit, vous adorerez Dieu le Père. » En esprit, dans la vérité, nous croyons que le temps est réellement arrivé. Quand est-ce que l'heure est arrivée? Ou bien alors, que quand est-ce que ce temps arrive tous de nouveau? Il se répète, n'est-ce pas, depuis la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu a été répandu et que la parole a été prêchée, l'Esprit et la parole ont agi ensemble en tous ceux qui, dans la foi, recevaient la parole. En eux, l'Esprit de Dieu pouvait agir et produire ce qu'ils ont cru. Et c'est ainsi que les hommes ont pu s'élever dans l'Esprit de Dieu, comme Paul le dit dans un verset. Je veux, en esprit aussi, dans mon intelligence, remercier Dieu. Les deux ont leur place. D'abord, nous commençons dans l'intelligence, dans l'entendement. Les premiers mots, nous devons peut-être les chercher même pour la prière, mais subitement, nous ressentons que nous ne cherchons plus les mots, mais que c'est l'Esprit qui nous les donne par une inspiration divine. Il nous accorde les pensées, les paroles. Il les met dans notre cœur. Alors, nous passons à une vraie adoration dans l'Esprit de Dieu, en esprit. Oh, je souhaiterais que cela réussirait au Seigneur après l'enseignement de nous amener dans la vraie adoration par son esprit, dans cette atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu peut se manifester, dans laquelle Jésus-Christ peut passer par nos rangs et confirmer sa parole parmi nous. Et ce qu'il faisait autrefois, alors qu'il marchait sur cette terre, le répéter, le refaire parmi nous. Combien croient que cela est possible? Combien croient qu'il est le même encore aujourd'hui? Combien croient qu'il le fera? Il ne peut pas faire autre chose que faire ce qu'il a promis. Je lis encore au milieu de la page 7. Faites attention au deuxième verset. Apportez le sacrifice dans le lieu que l'Éternel choisira. Que l'Éternel a choisi quoi? Qu'est-ce qu'il a choisi? Dans le lieu. Cela montre que Dieu a un lieu où tous les hommes peuvent adorer. Les autres lieux sont sans valeur. Ce lieu, il dit ici, j'ai choisi ce lieu pour y faire résider mon nom là-bas. J'ai choisi un lieu. Et c'est dans ce lieu que j'ai choisi que je ferai résider mon nom. En ce lieu où l'adoration doit être faite. Cela montre qu'il y a un lieu, qu'un seul. Il faut que ce soit le lieu selon le choix de Dieu, pas selon notre choix. Nous n'avons plus de choix à faire. Il l'a déjà choisi le lieu. Ce que Dieu a choisi, c'est le lieu qui est le juste, c'est le bon lieu. Moi, je peux me tromper, je peux faire un mauvais choix, mais Dieu ne peut pas faire un mauvais choix. Dieu ne peut pas se tromper. Le choix de Dieu est correct. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Mes élus, mon élu, pardon, Ésaïe 42, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir, qui fera toute ma volonté. Seulement, celui à qui Christ vraiment se révèle, celui qui seulement peut dire « La révélation de Jésus-Christ m'a été accordée », c'est celui-là seulement qui pourra reconnaître Dieu selon l'Esprit, qui était homme. D'apparence, il devait devenir homme et être homme à cause des hommes. Les hommes voyaient l'extérieur. C'est peut-être raison que le Sauveur autrefois à Philippe a dit « Je suis depuis si longtemps parmi vous et tu me demandes encore, montre-nous le Père. N'avez-vous pas reconnu que je suis que celui qui me voit a vu le Père et que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Dieu a fait un choix et tous ceux qui sont élus de Dieu reconnaîtront Jésus-Christ comme le centre, le point central de la révélation divine pour l'humanité et remercieront Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, c'est l'adoration en esprit. Ça, c'est la vraie adoration qui atteint Dieu, qui monte à Dieu, pas une adoration où on doit réfléchir, bon, qui est-ce que je remercie d'abord? Qui est plus grand, qui est plus petit? Qui vient comme premier? Non. Ça, ce n'est pas une adoration en esprit. Dieu est adoré en esprit, en Christ et par Christ, notre Seigneur. Car c'est en lui qu'il s'est révélé. Ça, c'est la révélation. C'est le lieu de la révélation de Dieu ici sur cette terre. C'est peut-être raison que Paul pouvait dire, nous disons à Dieu, en tout temps, nous rendons grâce à Dieu en tout temps par Jésus-Christ notre Seigneur. Cela m'enthousiasme. Le monde entier est sous la présence du malin. Ils marchent tous dans leur propre voie. Ils n'ont pas reconnu ce que Dieu a fait et ils ne savent pas non plus de quoi il s'agit. De Dieu, les élus de Dieu reconnaissent ce que Dieu a fait en Christ et arrivent là où ils adorent Dieu en esprit et dans la vérité, où ils peuvent adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Que cela soit encore relevé. Jésus disait, femme, crois-moi. Et nous le croyons aujourd'hui, comme femme et homme. Nous le croyons aujourd'hui, nous le croyons. L'heure est arrivée où ce n'est ni à Jérusalem avec des lèvres, des choses qu'ils ont répétées, et pas ici, en cet endroit. Pas sur une montagne quelconque. Pas seulement des paroles. Mais là, où le peuple de Dieu a reconnu que Dieu s'est révélé en Christ lui-même, s'est manifesté en Christ, et que le Père était dans le Fils, a été manifesté dans le Fils. C'est là qu'on adore, en esprit et dans la vérité, que le Seigneur puisse encore aujourd'hui nous donner cela par révélation. Ce que nous devons reconnaître, que cela nous soit accordé par la révélation de l'esprit. Mais frère Branham l'a dit, dans l'Apocalypse, il a parlé du vin et de l'huile. Il a dit, ne faites pas de mal à mon vin et à mon huile. Et frère Branham disait, l'huile symbolise l'Esprit de Dieu qui révèle tout. Et le vin donc parle de l'enthousiasme, de la stimulation, de ce que l'homme ressent pendant que l'Esprit lui révèle ce que Dieu a fait pour lui. C'est comme ça que cela doit être avec nous. Si vraiment nous recevons la révélation de l'Esprit de Dieu et que nous l'avons reçue, alors la stimulation doit se faire voir. Alors cela sera alors vrai. Alors l'adoration en esprit est là. L'adoration qui s'élève de la terre. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous sommes réconciliés. Nous avons été réconciliés déjà avec Dieu à Golgotha. Parce que nous croyons que nous sommes morts avec lui et ensevelis avec lui. Crucifiés avec lui et ensevelis avec lui. Et ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et nous savons que il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Dieu n'a pas seulement élu le rédempteur, celui qui devait sauver, mais il a aussi élu les rachetés. Il n'a pas seulement choisi le rédempteur, il a choisi les rachetés. Tout est l'élection, tout est la prédestination. Comme Pierre disait autrefois, cet homme qui, selon le conseil et la prédestination de Dieu, vous a été livré. C'est la même chose encore aujourd'hui. Dieu a un conseil et ce conseil maintenant arrive à son achèvement et à sa fin. Que Dieu m'accorde, que Dieu nous accorde à tous sa grâce, pour que nous aussi, nous puissions atteindre ce point où, en esprit, vraiment et dans la vérité, en vérité et en esprit, nous pouvons adorer des prières qui atteignent le trône de Dieu, des prières qui par l'esprit sont produites et sont exaucées. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Levons-nous pour la prière et pour adorer. De tout notre cœur, nous te remercions de ce que tous ceux à qui tu as parlé ont pu aussi t'adorer ensuite. Et ils l'ont fait et ils savaient à qui est-ce qu'ils parlaient. Parce qu'ils savaient qui avait parlé avec eux auparavant. Bien-aimé Seigneur, c'est la même chose aujourd'hui. Pas une montagne, pas une ville. Seigneur, il n'y a qu'un seul dans lequel le nom de Dieu sur terre a été manifesté. Qu'un seul qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'un seul est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous t'adorons, toi Dieu Tout-Puissant, et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur, le lieu de ta révélation. Alléluia. Oh, nous te remercions, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne valons rien et nous ne sommes pas dignes, mais tu vaux tout et tu es digne de recevoir la louange avec des louanges, de l'adoration avec des louanges et des psaumes et des, parce que tu es véritable, tu as parlé avec nous. Et c'est pour cette raison que nous pouvons parler avec toi. Ta sainte onction se repose sur nous, sur ton peuple, nous qui avons écouté ta parole. Seigneur, nous la croyons de tout notre cœur et te donnons à toi seul la gloire, et te rendons l'honneur, la gloire dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia! 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 À toi le Seigneur, le vrai Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, là il y a le vrai service divin, là où, dans les réunions dans lesquelles tu te manifestes, tu te révèles, où ton peuple avec crainte devant ton nom et devant ta parole, devant ta révélation se rassemble, parce que tu parles avec nous et nous en sommes conscients et que par cela, pour cette raison, nous pouvons de nouveau parler avec toi. Nous pourrions, Seigneur, ôter nos souliers et nous humilier et nous prosterner devant toi. Alléluia. Après ta révélation, après cet enseignement, accorde-nous ta grâce devant ta face pour qu'une atmosphère sainte et divine soit parmi nous, soit en nous, produite par ton Saint-Esprit. Comme ton troupeau racheté par ton sang, nous nous tenons ici, Seigneur, dans la foi que il ne peut pas avoir de condamnation en nous parce que tu nous as justifiés par ton sang sur la croix à Golgotha. Tu as fait une œuvre entière, totale. Tu as accompli une œuvre totale, une pleine rédemption, une pleine œuvre. Le plein salut, la pleine rédemption, la pleine réconciliation, la pleine guérison. Loué sois-tu, le Dieu vivant, ce soir, pour une telle grâce qui nous a été accordé, que nous puissions par la foi et par l'obéissance t'honorer. Fais, accorde-nous le courage. Fortifie nos genoux et nos mains qu'ils soient affermis pour que nous puissions nouvellement te croire, te suivre. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs. Ils ne viennent pas ici, Seigneur, pour visiter un endroit ou bien à cause d'une ville et un bâtiment qui a seulement un toit sur soi. Ils viennent dans ce lieu pour t'adorer en esprit et dans la vérité. Ils viennent pour t'écouter leur parler. Oh Seigneur fidèle, nous te remercions. Tu ne nous déçois jamais car tu nous as déjà bénis. Alléluia. Gloire et honneur soit à toi seul. à ton merveilleux et saint nom. Alléluia. Alléluia.